Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Faisons aujourd'hui un peu d'archéologie astronomique. Nous allons parler d'une constellation disparue, la constellation de l'Argos. Consignée par Ptolémée dans son Almageste, elle a été subdivisée à cause de sa taille. En effet, l'Argos, autrement dit Navis en latin, faisait 1884 degrés carrés, ce qui est un tiers plus grand que l'Hydre, la plus grande constellation actuelle. Et étant donné que la Voie lactée la traverse, il y avait plus de 160 étoiles clairement visibles à l'œil nu dans Navis. Devant la difficulté de numérotation de toutes ces étoiles, l'astronome Nicolas-Louis de Lacaille, dans les années 1750, a décidé de la séparer en trois constellations plus petites, la Carène, la Poupe et les Voiles. En conséquence, le navire Argos est la seule des 48 constellations listées par Ptolémée à ne plus être officiellement reconnue. L'Argos, c'est bien sûr le bateau de Jason, lorsqu'il partit avec ses compagnons appelés Argonautes. Toute l'histoire commence avec Athamas, le roi de Thèbes, qui épouse Néphélé, la nymphe des nuages. De leur union naissent Phrixos et Élée. Mais après quelques années, Athamas se lasse de son épouse et la remplace par sa nouvelle femme, Ino. Pendant un épisode de sécheresse, un oracle soumet à Athamas l'idée de sacrifier ses deux enfants pour remédier à la situation. Bon, dans d'autres versions, c'est Ino, la nouvelle femme d'Athamas, qui veut tuer les enfants. Les deux enfants sont donc sur le point d'être sacrifiés, mais leur mère, Néphélé, envoie un bélier à la toison d'or pour les sauver. Celui-ci arrive en volant, récupère les enfants et les emmène en lieu sûr. Malheureusement, pendant le voyage, Élée glisse et tombe au fond de la mer. Phrixos, lui, arrive sain et sauf chez le roi Éétès, qui prend bien soin de lui et lui offre même la main de sa fille. Phrixos sacrifie le bélier en l'honneur de Zeus et fait cadeau de la toison d'or au roi Éétès, qui le suspend à un chêne et le fait garder par un dragon. C'est alors que Jason entre en scène. Il est le fils de Éson, le roi de Iolocos. Quand il était tout bébé, son oncle Pélias renverse Éson et veut tuer Jason l'héritier. Sa mère, pour le protéger, le fait passer pour mort-né, et il est recueilli par le centaure Chiron, qui l'élève. Vous vous souvenez peut-être de Chiron, c'est un centaure bénéfique qui est connu dans toute la Grèce pour former des héros, autant sur le plan physique qu'intellectuel. Il a formé Hercule, par exemple. Une fois devenu adulte, Jason réclame le trône de Iolocos. Entre-temps, Pélias avait consulté les oracles et avait appris qu'un jour se dresserait devant lui un jeune homme chaussé d'une seule sandale qui le mettrait à mort pour venger sa trahison. Sur le chemin vers Iolocos, Jason aide une vieille femme à traverser un fleuve. Cette femme, ce n'est autre que la déesse Héra qui s'est déguisée. Il perd une sandale pendant la traversée. Alors, quand il se présente devant Pélias, ce dernier prend peur et promet de lui rendre le trône à condition que Jason lui ramène la toison d'or. Avec l'aide d'Athéna et d'Héra, Jason entreprend de faire construire un fabuleux navire, l'Argo, le Rapide. Une fois celui-ci terminé, Jason s'embarque avec 50 jeunes hommes héroïques, les Argonautes, qui ont partagé avec lui les enseignements du centaure Chiron. Parmi eux, on compte Hercule, Thésée et les jumeaux Castor et Pollux, du beau monde. Les voilà donc partis pour la Colchide à la recherche de la toison. En chemin, ils surmontent plusieurs aventures dont je vous épargne le récit. Et ils arrivent au royaume du roi Éétès. Éétès ne souhaite pas se défaire de la toison d'or qui garantit la prospérité de son royaume. Aussi, feint-il d'accepter de laisser la toison d'or à Jason s'il parvient à triompher d'épreuves surhumaines. Dans ces épreuves, il devra labourer une terre aride en ayant attelé un taureau aux sabots d'airain qui crache du feu. Il devra semer les dents du dragon de Cadmos. De ces dents vont germer des guerriers, les Spartes, ce qui veut dire les semer. Et ces guerriers vont l'attaquer. Il devra en triompher. Heureusement, il est aidé par la fille du roi, la magicienne Médée, qui est tombée amoureuse de lui. Celle-ci lui fournit un baume protecteur contre les brûlures et le fer du taureau, ainsi qu'une pierre, faisant en sorte que les guerriers s'entretuent. Mais le roi, de mauvaise foi, refuse de céder la toison d'or. Jason et Médée décident donc d'aller la chercher la nuit. Médée endort le dragon qui garde la toison et s'enfuit avec Jason. Pour retarder son père qui est à leur poursuite, elle va même jusqu'à tuer son propre frère, découper son cadavre en morceaux et aller semer derrière le bateau. Le roi doit arrêter sa poursuite pour recueillir les morceaux de son fils et leur donner une sépulture. De retour à Iolocos, Jason constate que Pélias a profité de son absence pour tuer son père et se débarrasser de toute sa famille. Médée met alors au point une ruse pour le venger. Elle rajeunit un bélier en le faisant bouillir dans un chaudron avec des herbes magiques. Elle convainc ainsi les filles de Pélias d'en faire de même avec leur père. Mais elle leur donne des herbes sans aucun pouvoir. Les filles de Pélias causent donc la mort de ce dernier. Médée est dénoncé par les filles de Pélias et Jason et elle sont bannis de Iolocos par Acaste, le fils de Pélias qui lui a hérité du trône. Ils se réfugient à Corinthe où ils sont accueillis par le roi Créon. À Corinthe, ils ont deux enfants, mais l'histoire finira mal parce que Jason délaisse Médée et finit par épouser la princesse locale, Créuse, la fille de Créon. Médée se venge en tuant Créuse, sa famille et ses propres enfants. Alors, ce mythe tout à fait sanglant regroupe donc un nombre important de personnages qu'on retrouve parmi les constellations du ciel. Il y a le bélier, qui est celui de la toison d'or, le taureau, qui représente celui que Jason soumet aux joues en Colchide, les gémeaux, Castor et Pollux, qui viennent en aide à Jason, le cygne, c'est la mère des jumeaux, Léda, le dragon, qui est celui de Cadmos, le corbeau, qui est perché sur son cadavre, le navire Argos, lui a droit à sa propre constellation, qui correspondent maintenant à trois petites constellations, la carène, les poupes et les voiles. La constellation de la coupe est celle de Médée, le centaure c'est Chiron, et Hercule, lui aussi, est un des compagnons de Jason. La constellation de l'Argos est donc maintenant représentée par trois constellations, la carène, la poupe et les voiles. Toutes les trois sont des constellations de l'hémisphère sud. La constellation de la carène est traversée par la Voie lactée. Alors bien qu'elle ne soit pas la plus grande du ciel, elle possède un nombre assez important d'étoiles brillantes, dont Canopus, la deuxième plus brillante de la voûte céleste après Sirius. Canopus marque le gouvernail de l'ancien navire Argo, et il porterait le nom du pilote du roi Ménéas pendant la guerre de Troie. Une ville d'Égypte fut fondée vraisemblablement à son nom, et Ptolémée y fit des observations. 71 fois plus grande que le Soleil et 15 000 fois plus lumineuse, Canopus est une supergéante, mais pas assez massive pour devenir à terme une supernova. Elle finira probablement en naine blanche, composée de néon et d'oxygène, ce qui est un cas assez peu courant. Nu Carina est aussi la plus brillante des étoiles connues. Elle n'a pas une magnitude apparente très élevée car elle est située très très loin, à 8000 années-lumière. Elle est 5 millions de fois plus lumineuse que le Soleil. Elle possède 100 à 150 fois plus de masse que lui, proche de la limite maximale avant qu'une étoile ne soit déchiquetée par ses propres radiations. Nu Carinae n'est même plus une supergéante, on parle d'hypergéante. Son diamètre serait 1000 fois plus grand que celui du Soleil. C'est-à-dire que si elle était située à la place du Soleil, elle s'étendrait au-delà de l'orbite de Jupiter. De par sa taille, Nu Carinae est instable, et sa luminosité change au cours du temps. En 1841, elle atteignit même la magnitude de moins 1, devenant l'étoile la plus brillante du ciel après Sirius. Elle fait partie des étoiles ayant le plus de chances d'exploser en supernova dans les prochains millions d'années. Peut-être même en hypernova, produisant un sursaut de rayons gamma. De fait, en 1841, elle a éjecté deux lobes de matière aussi massifs que le Soleil, dont le diamètre atteint désormais une année-lumière. Il est possible en fait qu'il s'agisse d'une étoile double, composée de deux supergéantes distinctes, orbitant l'une autour de l'autre en 5 ans et demi.
Je connais des bateaux qui s'en vont deux par deux affronter le gros temps quand l'orage est sur eux. Je connais des bateaux qui s'égratignent un peu sur les routes océanes où les mènent leurs jeux. Je connais des bateaux qui n'ont jamais fini de s'épouser encore chaque jour de leur vie, et qui ne craignent pas parfois de s'éloigner.
Les désignations des étoiles du navire Argos ont été effectuées par John Bayer avant la division de l'immense constellation. Les lettres grecques furent alors assignées aux différentes étoiles, et quand les constellations ont été séparées, au moment de la séparation, les lettres grecques furent assignées aux différentes constellations résultantes, et quelques-unes d'entre elles manquent donc à chacune. Par exemple, Gamma et Delta. Par exemple, il n'y a pas d'étoiles Gamma ni Delta dans la constellation de la Carène, parce que ce sont les voiles qui ont hérité de Gamma et de Delta. Passons donc à la constellation des Voiles, justement, située au nord de la Carène. Elle ne comporte pas ni d'alpha ni de bêta. Ça commence à Gamma Velorum. Gamma Velorum, c'est une étoile multiple. Gamma 2 Velorum est constituée d'une supergéante bleue 30 fois plus massive que le Soleil et 200 000 fois plus lumineuse, et d'une étoile de Wolf-Rayet. C'est la plus proche et la plus chaude que l'on connaisse. Une étoile de Wolf-Rayet, c'est une étoile chaude de plusieurs dizaines de masses solaires, qui, durant une phase relativement brève, de l'ordre de 1 million d'années après sa séquence principale, se met à expulser la matière entourant son noyau sous forme de vent stellaire à haute vélocité, en laissant celui-ci à nu, avant d'exploser en supernova. Passons ensuite à l'arrière de l'Argos, la constellation de la Poupe, qui est située à l'est des Voiles et de la Carène. Zeta Pupis s'appelle Naos, ce qui signifie en grec le navire, et définit bien son appartenance à la constellation de la Poupe. Naos, c'est l'étoile la plus brillante de la constellation. Alors alpha, bêta, epsilon sont allés dans la Carène, gamma, delta au voile, donc on arrive à zeta, avec une magnitude apparente de 2,21. Malgré son apparence modeste, elle figure parmi les étoiles les plus brillantes et les plus chaudes de la Voie lactée. Elle est à peu près 20 000 fois plus brillante que le Soleil, et sa température de surface est de 42 millions de Kelvin. Elle émet donc en majorité dans l'ultraviolet. Sa luminosité totale est 1 million de fois supérieure à celle du Soleil. Elle est située à 1400 années-lumière de la Terre, et elle serait aussi brillante que la pleine Lune si elle était aussi proche qu'Alpha du Centaure. Naos, c'est une supergéante bleue. On estime qu'elle est 18 fois plus massive que le Soleil, et 40 fois plus grande que celle-ci, que celui-ci. Elle tourne très rapidement sur elle-même, à une vitesse de 200 km par seconde. Elle perd chaque année une partie de sa masse, produisant un vent stellaire 10 millions de fois plus important que le vent solaire. La Poupe se trouve sur la Voie lactée, et elle contient donc plusieurs amas et nébuleuses, la plupart visibles avec de petits instruments, dont les amas ouverts M46 et M47. Ils sont situés à 10 degrés à l'est et un peu au nord de Sirius.